Avec plus de 10 millions de voix au premier tour des législatives, la victoire du RN est incontestable et écrasante. La campagne pour le second tour a évidemment démarré et c'est toujours la grande incertitude pour savoir qui dirigera la France dans une semaine. Tout dépendra notamment des désistements dans chaque circonscription. 169 désistements justement sont annoncés chez les macronistes et à gauche. Les candidats qualifiés ont jusqu'à demain 18h, je vous le rappelle, pour décider ou non de se maintenir. Bonsoir Léopold Audebert. Les consignes pour les désistements et les votes devaient être éclaircies par la majorité sortante, c'est ce qu'a fait le président aujourd'hui.
Oui, c'est ce qu'il a tenté de faire. En tout cas, Yves, avec cette consigne qui a été passée par Emmanuel Macron face à ses ministres, je cite, selon un participant à BFM TV, il ne faut pas se tromper, a dit Emmanuel Macron, c'est l'extrême droite qui est en passe d'accéder aux plus hautes fonctions, personne d'autre. Comprenez, pour décrypter, qu'Emmanuel Macron, en fait, il appelle potentiellement à appeler à voter pour des candidats LFI, la France insoumise, ça paraît paradoxal, mais c'est en fait donc le cas, dans le cas où des candidats de la majorité seraient très très mal placés et qu'ils pourraient potentiellement conduire à l'élection d'un député Rassemblement National. Alors LFI, oui, mais pas tous, c'est ce qu'on comprend entre les lignes. En fait, il y a une sorte de tri qui est en train d'être fait par la majorité, qui devrait être annoncé bientôt, une sorte de liste noire en fait de députés LFI qualifiés de beaucoup trop extrêmes, avec des propos dans le passé antisémite par exemple, ou encore peut-être raciste. Voilà les déclarations, ce qu'on comprend en fait quand on parle avec l'entourage d'Emmanuel Macron. Je voulais aussi quand même vous raconter l'ambiance dans cette réunion pendant l'après-midi, extrêmement tendue, parce que cette ligne officielle, elle n'est pas partagée par certains membres du gouvernement. Il y a par exemple, on peut penser à Bruno Le Maire, Édouard Philippe, et puis d'autres ministres qui ont plaidé pour un ni-ni, ni Rassemblement National, ni France Insoumise, pas d'exception donc. Et donc, voilà ce que nous décrit un participant à BFM TV. Écoutez bien les mots. Un participant nous dit « On a encore été dans un Macron stratège déconnecté. Une réunion jugée inutile. Il s'est comporté comme un maître de classe en parlant d'Emmanuel Macron, parlant à ses élèves. Ce n'était pas un discours, je poursuis, pour galvaniser les troupes. Pas une réunion du type « on remanie on remonte sur le tigre », mais un groupe de parole. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans les réunions actuellement de cette majorité, absolument écartelée avec des propos de ministres. Et c'est vrai que c'est paradoxal, cette position d'Emmanuel Macron, parce que si on revient quelques jours en arrière, si on remonte le fil, Yves, avant ce premier tour, nous, sur le terrain, on a suivi un Emmanuel Macron qui mettait dos à dos deux extrêmes. Et ce soir, vous l'avez entendu avec cette phrase, Emmanuel Macron, il ne pointe plus qu'un seul extrême, l'extrême droite.
Léopold Audebert avec Romain Lavoie en direct de l'Élysée. Avec nous ce soir, Roselyne Bachelot, ancien ministre. Violette Spielboud, députée Renaissance sortante du Nord, porte-parole du groupe macroniste à l'Assemblée nationale. Yann Brossat, sénateur de Paris, porte-parole du Parti communiste français. Et Anna Cabana, éditorialiste de BFM TV. Avant d'évoquer ces désistements qui doivent se décider avant demain soir et qui seront encore sans doute assez nombreux, Roselyne Bachelot, quels sont les principaux enseignements que vous tirez, vous, de ce premier tour ?
Les principaux enseignements, c'est un vote record, véritablement une campagne qui a bien marché, hein, malgré sa brièveté, une victoire incontestable du Rassemblement national, même si par rapport à son score, je dis en pourcentage, hein, je ne dis pas en nombre de voix évidemment, puisqu'il y a une mobilisation extrême du corps électoral, un léger retrait par rapport au pourcentage des européennes. Il en est de même aussi pour le cartel des gauches qui, on observe un léger retrait. Le parti de l'ex-majorité, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça maintenant, est s'est reconstitué. Et par contre, aussi les Républicains, si on fait la sommation à la fois de ceux qui ont rejoint le Rassemblement national et ceux qui sont restés autonomes, on a pris 3 ou 4 points par rapport à la campagne de François-Xavier Bellamy. Voilà quelles sont les forces en présence, les éléments qu'on peut constituer. Le deuxième élément, c'est la deuxième série de leçons, elle est à venir, puisque un second tour, ça sert à amplifier ou à rectifier un premier tour, et c'est ça qu'on ne sait pas encore, mais effectivement, les consignes de désistement devraient plutôt amener à rectifier le premier tour qu'à l'amplifier.
Tuc Dual-Denis, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles, nous a rejoint. Anna Cabana, Emmanuel Macron a-t-il d'ores et déjà en fait perdu son pari de la dissolution ?
Alors, son pari, c'était de dire aux électeurs, chiche, au fond, vous voulez vraiment du Rassemblement National, ayez le courage ou la folie, au fond, de vouloir ce que vous voulez. Et que lui ont répondu les électeurs à l'occasion de ce premier tour, c'est on veut vraiment ce qu'on a dit vouloir. Et donc, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, qui a vraiment joué les apprentis sorciers dans cette dissolution surprise. D'ailleurs, tout le monde dans son entourage dit, c'est pas moi qui lui ai conseillé. Hein. Vous avez vu qu'ils se renvoient tous. Alors là, c'est même pas une patate chaude. C'est-à-dire, personne n'en veut. C'est-à-dire, les conseillers viennent nous dire, non, c'est pas moi, contrairement à ce qu'on a dit, j'étais pas dans le carteron des conseillers qui. Les ministres disent, non, pas du tout. Le premier à s'être démarqué, c'est évidemment Gabriel Attal qui a dit, moi, j'étais pas au courant. Et donc,
mais c'est peut-être pas faux, hein.
Ah non, mais je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est très signifiant que pendant ces 3 semaines de campagne, les uns et les autres soient venus nous expliquer que c'était surtout pas eux qui avaient donné cet abominable conseil. Et donc, ce abominable conseil, c'est leur expression à eux. Et donc, cette décision-là, au fond, qui était un coup de poker d'Emmanuel Macron, eh bien, ça a été un échec. Ça a été un échec. Mais ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il n'y a plus de Macronie. Aujourd'hui, vous avez une majorité sortante.
Ça veut dire, pardonnez-moi, qu'il ne peut rien espérer du second tour.
Mais il n'y a rien à espérer.
Alors, Rosine Bachelot, dénégation.
Il est sorti du jeu. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de surréel pour les ministres qui l'entouraient aujourd'hui à la mi-journée, de le voir encore en position de prétendre leur donner des leçons, alors qu'il n'a plus, il n'aura plus de pouvoir politique. C'est un président de la République qui va se retrouver dans une situation inédite en matière de cohabitation sous la 5e, parce qu'il ne pourra pas, il ne peut pas se représenter. Donc, si vous voulez, même ce spectre là qui donne un peu de puissance, n'est-ce pas, aux locataires de l'Élysée, ce qu'a expérimenté Jacques Chirac, et on le sait. Je veux dire, il n'aura pas cette puissance-là, donc on a une faiblesse politique au carré, mais un président qui n'a pas du tout l'air d'en avoir conscience. C'est ça qui était frappant pour ceux qui l'ont rencontré aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas terrassé, il est en dehors de cette question-là. C'est-à-dire que il n'est pas non plus triomphaliste.
Une forme de dénégation.
Il est en suspension au-dessus de tout ça, à prétendre encore pouvoir donner des leçons. Je trouve que c'est quand même intéressant de savoir ça, parce qu'il y a quelque chose là d'assez surréel.
Violette Spielbou, vous nous confirmez que la majorité aujourd'hui, enfin cette réunion que devait mener la majorité aujourd'hui a été, on va dire, au minimum tendue, et qu'on a une sorte de président en suspension.
Alors, je crois que les journalistes sont beaucoup mieux informés que nous. Moi, j'arrive de Lille, du Nord. Je suis sur le terrain comme tous les collègues. Et donc, nous ne sommes pas morts. Les élus de la majorité qui sont ici, certains de l'ancienne majorité, qui sont sur le terrain, sont réellement en campagne pour le deuxième tour.
Votre majorité a disparu.
Il y a beaucoup de candidats aujourd'hui, de candidats qui partagent les valeurs du centre, ces valeurs fidèles aux valeurs de la République, de la laïcité, de la cohésion nationale, de la justice sociale, de l'Europe, qui porte aujourd'hui une alternative au Rassemblement national et à la gauche et à l'extrême gauche. Aujourd'hui, moi je crois qu'on est à un moment grave, vous l'avez dit, un moment sérieux, où les Français effectivement ont fait un vote sanction. Ça, je crois qu'on l'a entendu partout. Même pour un candidat qui va être en tête au premier tour, il entend la colère des Français. Il entend aussi cette envie d'essayer le Rassemblement national. Elle est là, cette envie. Et donc, c'est à nous, pendant 7 semaines, de prouver, d'expliquer, de convaincre combien le programme du Rassemblement national conduirait à la ruine de la France et à la division. C'est pas simple, mais je crois qu'il faut quand même respecter ce choix des électeurs et le combattre avec les bonnes armes, c'est-à-dire avec les idées.
Tuc Dual-Denis, on le rappelle, on comptabilise plus de 10 millions de voix pour le RN hier. C'est énorme. Pourtant, le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella semble s'éloigner de la majorité absolue dans les dernières projections. Est-ce que ça reste une énorme victoire du Rassemblement national, quoi qu'il arrive ?
Oui, c'est plus que le score de Nicolas Sarkozy au premier tour en 2007.
Historique est un mot qu'on peut employer ?
Oui, complètement. Historique à double titre, puisque c'est historique pour eux et c'est historique dans la vie politique française que ce parti-là, qui n'a jamais eu d'alliés, qui était le plus diabolisé, oui, réussisse à devenir le parti majoritaire. Et quand bien même il n'aurait pas de majorité absolue demain, c'est à peu près sûr et certain qu'ils seront le plus gros groupe à l'Assemblée nationale. En revanche, ce qui est assez paradoxal, c'est que malgré ce gros score depuis hier, si on se met à la place des électeurs du Rassemblement national, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des tractations de gens qui, hier, s'agonisaient de noms d'oiseaux et qui, aujourd'hui, sembleraient, veulent rouler ensemble. Je pense évidemment à l'alliance, qui ne dit pas son nom, entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le discours de Gabriel Attal, hier, a fracturé la majorité. Gabriel Attal, en appelant à les électeurs à se reporter sur des électeurs de gauche, plutôt des candidats de gauche plutôt.
C'est le constat que fait Jordan Bardella.
Comment ?
C'est le constat que fait Jordan Bardella.
C'est le constat aussi qu'on fait en regardant les interviews de Bruno Le Maire, les déclarations de Gérald Darmanin, d'Édouard Philippe. Effectivement, on voit qu'il n'y a plus de chef pour cheffer et qu'aujourd'hui, ça se disperse et que chacun revient vers sa famille d'origine. Mais c'est quand même très bizarre pour un électeur du Rassemblement national dont une des motivations du vote et qu'il en a marre qu'on lui fasse la leçon, et puis à peine a-t-il voté justement pour cette formation politique-là, qu'on lui explique, comme vous madame, que ce n'est pas les valeurs de la République, que Emmanuel Macron a parlé de démocratie hier, que Gabriel Attal évoquait les peurs que ça pouvait susciter. Honnêtement, je ne veux pas faire de pari qui pourrait se révéler très hasardeux, merci Roselyne. Mais moi, je pense le Rassemblement national va bénéficier d'un double effet. D'une part, justement, de ce refus des consignes de vote et de ce ras-le-bol des états-majors parisiens qui disent aux électeurs quoi faire. Et donc, je ne suis pas du tout sûr que les électeurs macronistes...
Vous nous dites que le Front républicain pourrait renforcer...
Oui, paradoxalement, oui.
Je pense le Rassemblement national...
C'est pas impossible. Il peut y avoir deux effets.
Voilà, évidemment, il y en a qui vont suivre, mais il y en a aussi qui vont dire, attendez, ras-le-bol, là, j'ai pas 12 ans, j'ai bien le droit de voter pour qui je veux. Et moi, en tant qu'électeur macroniste, je n'aime pas la France insoumise, donc je n'irai pas voter pour un candidat de la France insoumise.
Sauf si tous les Français qui votent Rennes l'ont fait au premier tour. Et c'est déjà... faramineux dans les chiffres.
Ah oui, mais vous savez, par exemple, sur la
participation... Il y a une marge, vous pensez, encore ?
Sur la participation, quand on ergotait beaucoup avant le premier tour sur les procurations, la participation, en fait, pour en avoir discuté avec certains, il y a aussi beaucoup de gens qui ont participé cette fois-ci en se disant qu'il y avait une possibilité pour le Rassemblement national d'obtenir quelque chose. Des gens, en gros, désabusés de la vie politique, lassés de voter dans le vent, de voter juste pour la protestation, et qui, là, tout d'un coup, vous leur offrez la possibilité de mettre Jordan Bardella à Matignon, ça peut faire sortir des gens de chez eux pour aller voter. Et je pense, par ailleurs, que peut y avoir une démobilisation des électeurs du Bloc central ou de l'extrême-gauche, parce que honnêtement, vous êtes électeur de Jean-Luc Mélenchon, aller voter pour un candidat macroniste, ça vous motive quand même un peu moins que pour votre député France Insoumise, et vice-versa pour l'électeur macroniste. En revanche, l'électeur Rassemblement National, qui s'est déjà déplacé une fois, je peux vous dire, lui, il va pas aller à la pêche dimanche prochain.
Comment vous vivez ce qui s'est passé hier? Ça va pas formidablement pour la gauche que vous représentez ce soir non plus.
Je crois qu'il faut regarder les choses honnêtement. Il n'y aura pas de victoire de la gauche dimanche prochain. Donc le seul enjeu du deuxième tour de ces élections législatives, c'est d'éviter que l'extrême droite ait une majorité absolue. Moi, je dis les choses très clairement, j'aime pas raconter des histoires aux électeurs. La gauche ne gagnera pas. L'enjeu pour nous, c'est comment on fait en sorte que M. Bardella n'ait pas la majorité absolue demain à l'Assemblée nationale. Et j'assume parfaitement que quand l'essentiel est en cause, on doit être capable de prendre ses responsabilités par des désistements et par des consignes de vote. Après, évidemment, les électrices et les électeurs sont parfaitement libres de suivre les consignes ou pas, mais nous, comme responsables politiques, nous faisons ce qu'il faut faire, et je crois que ça s'assume parfaitement. D'ailleurs, quand même, il n'y a pas de surprise. À chaque fois que nous, à gauche, nous avons dû faire ce choix, nous l'avons fait. Vous savez, moi, une des premières fois que j'ai voté, c'était pour Jacques Chirac en 2002. J'avais 22 ans à l'époque et je ne le regrette absolument pas parce que c'était face à M. Le Pen et que je ne voulais pas que M. Le Pen devienne président de la République. Et nous l'avons fait de la même manière en 2017 et 2022. Je constate que du côté de la Macronie, il y a eu quelques hésitations, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon sentiment, c'est que le président de la République a passé 3 semaines à taper sur la gauche et qu'il va passer 3 jours à se rappeler que l'extrême droite est un danger pour notre pays. Mais enfin, en tout cas, je pense que c'est parfaitement
droit.
Oui, beaucoup plus sur la gauche. En tout cas, je constate que chacun retombe sur ses pattes, et tant mieux, parce que l'enjeu, c'est de faire en sorte que l'extrême droite n'ait pas la majorité absolue.
Guilhem Carayon, bonsoir. Vous présidez les Jeunes Républicains. Vous êtes candidat de l'Alliance LR-RN dans le département du Tarn, je le rappelle. Ce front qui se met en place pour vous combattre, Que vous disent vos électeurs quand vous les croisez en ce moment? Est-ce que c'est insupportable pour eux?
Bonsoir. Bah oui, que c'est une alliance qui est une honte absolue pour la République entre M. Macron et M. Mélenchon. Moi, j'appelle les Français à rester libres, à refuser les consignes de vote, à refuser les pseudo-barrages républicains qui ne veulent rien dire, à faire la politique du castor. Je crois que c'est avant tout une trahison pour les électeurs d'Emmanuel Macron, les électeurs centristes, les électeurs de centre-droit, de centre-gauche, de la gauche républicaine, auxquels nous, on veut lancer un appel pour le second tour. On a besoin d'eux parce qu'on va être tout proche de décrocher une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et c'est cette majorité-là qui va nous permettre d'agir. D'agir concrètement pour changer la vie des gens. D'agir pour changer leur quotidien. Et donc, on a besoin d'eux pour transformer l'essai dimanche prochain.
Vous ronchonniez, si vous me permettez cette expression,
Roselyne Bachelot. Étant donné que
voilà, allez-y.
La sensibilité politique de M. Carayon s'est prononcée pour la retraite à 65 ans et même à 67 ans, et que là, ils vont rejoindre un groupe qui a prôné la retraite à 62 ans et même 60 ans. Il y a aussi des principes en politique. Vous parliez de trahison, mais vous n'avez pas l'impression que c'est vous qui avez tiré le premier en matière de trahison en rejoignant le Rassemblement national?
Non, madame, moi j'ai toujours dit que j'avais 90-95% de points de convergence avec le Rassemblement national. J'ai toujours dit que notre partenaire naturel, c'était le Rassemblement national. Moi, je suis pas macroniste. Je vais vous dire, ça fait plusieurs années que je suis engagé dans cette famille politique, chez les Républicains. J'ai été élu par les militants, président des Jeunes LR, deux fois de suite, largement élu. Et je sens que les militants, nos sympathisants, nos électeurs sont davantage proches du Rassemblement national. On a des convergences sur le pouvoir d'achat, le fait de remettre de l'ordre dans les comptes. Pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, assurer la sécurité des Français, reprendre le contrôle de notre politique migratoire. Sur tous ces plans-là, on a des convergences avec le RN. Et effectivement, nous, on est en rupture totale avec la politique du président de la République. Ça fait 7 ans qu'on combat sa politique. Comment voulez-vous qu'on accepte que certains barons, chapeaux à plumes des LR, soient en train de négocier avec lui pour se répartir des circonscriptions? Moi, c'est ça que je considère une trahison de nos principes, de nos valeurs. Et je crois que les électeurs les ont largement sanctionnés, puisque vous avez vu les résultats hier. On s'apparente plutôt à une victoire de nos alliés, du Rassemblement national et des Républicains à droite.
Vous vouliez intervenir, tu gueules, Denis?
Oui, honnêtement, je crois qu'objectivement, on peut reconnaître qu'il y a moins de différence entre Guillaume Carayon et Jordan Bardella qu'entre Gabriel Attal et Jean-Luc Mélenchon.
Je dois dire que la logomachie du RN est intégralement recrachée par...
Roselyne, si on prend ce qui s'est passé très, très récemment, vous avez Gabriel Attal qui a eu des mots très très durs depuis les élections européennes à l'encontre de la France insoumise. Vous avez Jean-Luc Mélenchon qui est à l'île de Saint... Emmanuel Macron qui est à l'île de Saint a accusé Jean-Luc Mélenchon d'avoir un programme immigrationniste. Vous avez des gens côté France Insoumise qui n'appelait pas au retour au calme durant les émeutes face à Gérald Darmanin qui lui essayait de tenir tant bien que mal le pays depuis la place Beauvau. Vous avez aujourd'hui un député macroniste, un candidat macroniste qui se désiste au profit de David Guiraud qui est un des plus antisémites compatibles de la France Insoumise. Et vous pensez que les électeurs vont comprendre ça? Alors qu'effectivement, la droite, on peut, et d'ailleurs vous l'avez dénoncé vous-même, c'était peut-être racornir, rabougrir, radicaliser ces dernières années. Et d'une certaine manière, le transfert d'Éric Ciotti et de Guillaume Carayon, c'était une forme de clarification.
Heureusement que j'ai quitté.
Yann Brossat voulait intervenir.
Je suis quand même un peu étonné qu'on nous explique aujourd'hui qu'il y aurait une compatibilité totale entre ces gens qui viennent de LR et qui défendaient un programme économique ultra-libéral et le Rassemblement national qui, pendant des années aussi, nous a fait croire qu'il était partisan de la solidarité et de la justice sociale.
Est-ce que c'est vraiment le problème? Je crois que vous feignez de trouver anormal trouver anormal, mais qui n'aura finalement pas d'importance dans les urnes.
Les questions économiques, les questions de pouvoir d'achat, la question de l'hôpital, de l'école, ce n'est pas des petits sujets. Enfin, excusez-moi, pendant des années, Mme Le Pen nous a dit qu'elle était favorable à la retraite à 60 ans. M. Ciotti, il est favorable à la retraite à 65 ans. M. Ciotti était favorable à l'augmentation de la TVA. Il disait qu'il voulait faire une TVA sociale. Et Mme Le Pen a dit qu'elle voulait supprimer la TVA sur les produits de première nécessité. M. Ciotti a dit qu'il fallait faire des centaines de milliards d'euros d'économies sur le budget de l'État. Mme Le Pen expliquait tout l'inverse. Et tous ces gens, en réalité, se sont mis d'accord en ignorant complètement ces questions.
Pardonnez-moi, si je fais le jeu des 7 différences entre votre programme et celui du président Macron, je peux vous dire que je vais trouver beaucoup de choses qui n'ont vraiment rien à voir. Et j'ai envie de vous dire.
On n'a jamais dit qu'on allait faire une majorité.
Attendez, Yann Brossat me répond.
Excusez-moi, monsieur Calvi, on n'a jamais dit, jamais, qu'on allait faire une majorité avec Monsieur Macron.
C'est ça, la différence.
Alors que ces gens s'apprêtent à gouverner.
Mais vous appelez à vous désister pour lui au second tour.
Quand on a voté pour Emmanuel Macron aux deux dernières élections présidentielles, on n'a pas derrière participé à la majorité de Monsieur Macron. Simplement, quand on a l'extrême droite en face de soi, on prend ses responsabilités. Là, ils s'apprêtent à gouverner ensemble, alors qu'ils sont en désaccord sur tout, sur les questions économiques et sociales. Et d'ailleurs, les premiers qui seront trahis, ce sont les classes populaires qui votent pour M. Bardella, parce qu'en réalité, rien de ce qui leur a été promis ne sera appliqué demain, parce que tout le programme social de Mme Le Pen sera sacrifié sur l'autel de l'alliance avec M. Ciotti.
Moi, je voulais réagir à ce que vous disiez sur les désistements, parce que c'est vrai que je suis dans une métropole à Lille où on a le festival des pires, des affreux de la France insoumise, des fous furieux. Hein. On a David Guiraud, effectivement, à Roubaix. On a Hugo Bernalicis, qui est arrivé à 47% dans la deuxième circonscription. On avait Adrien Quatennens, qu'on a réussi à faire se désister en se mettant à nombreux à attaquer cette investiture. On a bien sûr une pratique de la France insoumise qui est réelle sur le terrain. Il n'y a pas que dans les médias et dans leurs déclarations politiques. Il y a dans les actes, les menaces, la violence, la façon de faire la politique, de porter un antisémitisme d'atmosphère, de minimiser les actes antisémites qui sont en France, d'utiliser le conflit israélo-palestinien, qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des gens qui sont réellement extrémistes. Donc moi, très clairement, je ne suis pas favorable au désistement pour David Guiraud, d'autant plus qu'il n'y avait pas de danger que le RN puisse gagner cette circonscription.
Qui a eu pourtant lieu, hein, on est d'accord.
Oui, c'était pas un désistement, il n'a pas eu 12... Attendez, le candidat macroniste...
Il appelle à voter pour lui.
Voilà, pardon, je voudrais juste préciser, parce que pour pouvoir se désister, il faudrait qu'il soit en mesure de se maintenir au deuxième tour, ce qui n'est pas le cas.
Ce n'est pas le cas.
Il a appelé à voter pour David Guiraud.
On laisse terminer, puisque M. Guiraud est très largement en tête et on sait qu'il va gagner ce deuxième tour, mais dans le cas, par exemple, nous, où on a dans la deuxième circonscription une candidate qui arrive en troisième position, Violette Salanon, et que M. Bernalicis est déjà à 47% et que le RN est bien plus bas, 20 points en dessous, il n'y a pas de risque RN, donc notre candidate se maintient. Nous combattons les extrêmes. Ah. Et par contre, dans la 11e, on a un candidat socialiste, moi, que je connais depuis longtemps, qui a été ancien maire, qui est raisonnable. Je regrette qu'il se soit allié à la France insoumise pour cette élection, mais bien sûr, notre candidate s'est désistée pour lui. Voilà, il y a aussi des réalités des hommes et des femmes et de leur façon de faire la politique.
Alors, se désister ou voter pour la France insoumise, c'est en tout cas hors de question pour plusieurs cadres de la Macronie, notamment pour le ministre de l'économie. Écoutez Bruno Le Maire et la réaction d'ailleurs de la patronne des écologistes, Marine Tondelier.
Je ne vote pas pour la France insoumise parce que la France insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Parce que la France insoumise, c'est le communautarisme. Parce que la France insoumise, c'est l'antisémitisme. Parce que la France insoumise, c'est la violence. Parce que la France insoumise, c'est un député qui joue avec l'effigie d'un ministre sur une tête de ballon. Et je ne veux pas ça pour la France. La France insoumise est un danger pour la nation.
Je suis un, atterré, et deux, extrêmement en colère.
On vous sent très ému.
Très ému. Parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement National. Et ce que vient de faire Bruno Le Maire, c'est un comportement de lâche et de privilégié. Est-ce que le Rassemblement National a la possibilité d'être en majorité absolue à l'Assemblée Nationale ? La réponse est oui. Oui. Est-ce que la France Insoumise a la capacité d'être à la majorité absolue à l'Assemblée Nationale ? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont la capacité d'avoir un Premier ministre ? La réponse est non. Donc ils se trompent de problème. Et donc, franchement, je suis atterrée. Vraiment. Ils ont choisi le déshonneur aujourd'hui. Ils auront le déshonneur et la défaite.
Pour l'avoir interviewée, je peux dire que Mme Tondelier a du caractère. Voilà, c'est une femme forte. Est-ce que vous comprenez ses larmes et ce moment d'émotion qui est le sien ?
Je crois qu'elle a confondu sans doute le vote LFI et le vote pour le cartel des gauches. C'est ce que j'ai cru comprendre dans l'analyse des propos de Bruno Le Maire. Il y a évidemment certains candidats LFI pour lesquels je rejoindrais volontiers l'analyse de Mme Spielbus, pour lesquels il est très difficile de voter. Je dois dire que là, il y a une sorte de barrière infranchissable. Par contre, effectivement, il y a des gens dans la gauche, au Parti communiste, au Parti socialiste, également chez les écologistes, qui sont des gens, des républicains, et pour lesquels, si je devais voter pour eux, moi, personnellement, ça ne me poserait pas de problème.
Est-ce qu'il y a des candidats LFI pour lesquels vous pourriez vous désister ? Des candidats plus fréquentables à votre
j'ai pratiqué de très très loin les LFI parce que honnêtement mon souvenir à la
Vous avez le droit de me dire non, c'est un compte va pour moi, hein, j'ai pas
globalement ceux pas que je connais dans la métropole lilloise sont plutôt dans les plus dangereux, et les
vous
plus
vous
influents.
Les
voilà, mais j'ai travaillé
donc il y en a qui le sont moins si donc, je puis dire.
J'ai fait une mission avec Sébastien Jumel du Parti communiste sur le statut de l'élu local pendant près de 8 mois avec énormément de rencontres et nous avions tous les groupes dans cette mission. Il y avait Sébastien Rome, qui est un élu LFI, ancien maire d'une commune rurale, qui n'était pas dans les personnes qui proféraient en permanence des insultes envers la République, qui prônait l'insurrection, qui était violent dans son comportement. Certes, il n'a pas dénoncé les propos antisémites ou incitant à l'antisémitisme de ses collègues de la France insoumise, mais je pense que si je me retrouvais face à lui, je serais peut-être un peu moins virulente. Je pense que on est vraiment à un moment, pas dans le sujet, comme vous le disiez, des consignes de vote, parce que je crois que de toute façon, nos électeurs, quand ils connaissent tel élu de la France insoumise, ils n'iront pas voter pour eux, même s'il y avait un appel à voter de quelques candidats que ce soit. Ils se sentent libres, les électeurs, aujourd'hui, ils nous l'ont montré. Donc je pense que ce qui est important, c'est que pour les élus que nous sommes, élus locaux, parlementaires, on fasse aussi avec nos convictions.
Ça veut peut-être dire aussi que le premier qui en ce moment devrait se taire, c'est le président de la République, en tout cas pas donner de consignes, non ?
Alors ça fait 3 semaines hein, que tout le monde lui demande de se taire au sein même de son camp, de ce qui était encore la majorité présidentielle, et on a vu à quel point il n'arrive pas à le faire. Mais il y a quand même il voulait une clarification, souvenez-vous. Hein. Dès le soir de l'annonce de la dissolution par Emmanuel Macron, l'Élysée nous envoie cet élément de langage, on veut une clarification. Et bien là, ce qui se passe au sein de l'encore majorité présidentielle pour une semaine, c'est une clarification. Parce qu'en effet, vous voyez les uns et les autres, donc qui sont encore macronistes, devoir se positionner sur la question de savoir s'ils appartiennent au groupe des Nini. C'est-à-dire le groupe des Nini, c'est ni Rassemblement National, ni France Insoumise, ou s'ils appartiennent à ce groupe qui dit, eh ben, au fond, mieux la France Insoumise que le Rassemblement National, et au sein de la France Insoumise, je vais faire le tri. Parce que c'est ça, hein, y a le grand ami. C'est-à-dire que le tri, c'est de dire, est-ce qu'ils partagent, ce sont les mots du Premier ministre, Gabriel Attal, est-ce qu'ils partagent les valeurs de la République ?
On est bien d'accord que pour l'instant, la consigne du président Macron, c'est au cas par cas.
Au cas par cas, et précisément, la consigne du président Macron, c'est ceux qui partagent les valeurs de la République. Mais comprenez bien que c'est à l'appréciation de chacun, qu'il n'y a pas de critère absolu de la respectabilité d'un élu de la France.
On sait qu'un tiers des Français ne pensent pas, en tout cas, que le Rassemblement national soit en dehors de ce champ.
Mais regardez ce qui s'est joué avec François Ruffin. Attal l'avait dit, hein. Prenez l'exemple de François Ruffin. François Ruffin, aujourd'hui, il est désormais regardé par Emmanuel Macron comme un insoumis fréquentable. Mais c'est le même François Ruffin qui, pendant la crise des Gilets jaunes, expliquait et prédisait à Emmanuel Macron le destin de Kennedy. C'est le même François Ruffin qui a traité Emmanuel Macron de tous les noms. Donc je ne vous dis pas, attention, moi je ne suis pas en train de condamner l'alliance entre François Ruffin et la Macronie. Je vous dis juste que là, il faut faire attention parce qu'il y a une clarification qui est en train de s'opérer, en effet, c'est-à-dire savoir si, si au sein de l'encore majorité présidentielle, on considère que c'est Rassemblement National dans le même sac que la France Insoumise ou pas. Et vous les voyez les uns et les autres se positionner. Vous avez Édouard Philippe, le premier qu'il a fait, Bruno Le Maire, on l'a entendu, vous avez Christophe Béchu, vous avez Aurore Berger, tous ceux-là viennent de la droite, en effet, et se positionnent pour le Nini. Et vous avez les autres qui sont en train de se tortiller plus ou moins, ou alors carrément, qui disent que de toute façon, LFI vaut mieux, quel que soit le candidat. Mais c'est très intéressant parce qu'on a toutes les nuances de positionnement, et ça, c'est une clarification.
Vous voyez, il y a les insoumis fréquentables et pas fréquentables,
Moi, je suis d'abord frappé par le fait que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la France insoumise et on ne parle absolument pas de ce qu'est le Rassemblement national avec son projet, qui est un projet qui consiste quand même à expliquer, par exemple, qu'on va retirer des droits à des Français qui sont simplement binationaux et qui ont le tort d'être binationaux et à ce titre-là pour être suspects de je ne sais quelle double allégeance. Enfin, on ne parle pas de quelque chose dans le vague. C'est ça le Rassemblement national. Et puis, excusez-moi, mais depuis 3 semaines, on a eu une multiplication de violences racistes dans notre pays liées au niveau atteint par le Rassemblement national aux élections européennes. J'étais la semaine dernière à Montargis aux côtés de cette aide-soignante qui s'appelle Divine et qui, tous les soirs, lorsqu'elle rentre chez elle, a droit aux insultes de ses voisins militants du Rassemblement national qui font des cris de singe. Et Mme Le Pen, lorsqu'on lui a demandé de réagir à ça, a dit que c'était normal, que c'était pas raciste. Des cris de singe à une femme
elle
qui...
Elle a pas dit que c'était normal.
Elle a dit que c'était normal, elle a dit c'est une militante communiste. Et alors, parce qu'elle est militante communiste et qu'elle est noire, on a le droit de faire des cris de singe? On veut que ces gens-là soient en responsabilité dans notre pays, qui nie le caractère raciste de
ça. Vous ferez croire à personne qu'il y a 10 millions d'électeurs à
Rennes. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il y a, parmi les élus du Rassemblement national, parmi les responsables du Rassemblement national, plus d'une cinquantaine de candidats qui sont auteurs. Et ben, ils ont des fichiers SS, comme disait Olivier Faure l'autre jour.
On peut faire des jeux de mots, mais c'est pas drôle dans l'un.
Des responsables qui prononcent des propos racistes, antisémites, négationnistes. Regardez-les. Ils existent. Mais d'eux, on n'en parle jamais.
Guilhem Carayon, je vous laisse réagir à ce qu'on vient de rappeler il y a quelques instants. Est-ce que cette situation vous choque? Est-ce que cette parole raciste doit être condamnée?
Mais je ne sais même pas à quoi fait référence Yann Brossa, mais évidemment...
Vous avez dû rappeler un épisode.
Tout propos raciste, tout propos antisémite doit évidemment être condamné. Mais moi, je dois vous dire que en m'alliant avec le Rassemblement national, j'ai bien épluché leur projet politique, leur programme, et j'ai pas déniché le moindre projet, la moindre proposition qui aille dans le sens du racisme et de l'antisémitisme qu'on condamne tous. On est républicains. Enfin, moi je vais vous dire, une des raisons pour lesquelles je me suis engagé dans cette coalition, c'est parce que je considère qu'on est aujourd'hui l'unique rempart républicain face à l'alliance du pire. On est l'unique rempart républicain face à une extrême gauche qui, justement, a été ambiguë sur cette question de l'antisémitisme. Moi, je ne veux pas d'une extrême gauche à la tête de mon pays qui propose de désarmer la police, d'ouvrir grand les vannes de l'immigration, d'abolir les lois de lutte contre les squats, de lutte contre le séparatisme islamiste. Ces gens-là sont dangereux. Ils sont autoritaires, ils sont sectaires et ils sont dangereux pour nos principes républicains. C'est aussi la raison pour laquelle je crois que notre coalition est le meilleur bouclier pour tous ceux qui veulent qu'on préserve, qu'on défende les principes républicains dans notre pays, auxquels moi je suis évidemment, comme vous, j'imagine, attaché.
Enfin, moi, je suis assez quand même frappée effectivement de ce que vous dites, monsieur, parce que il y a encore la semaine dernière un rapport qui est remis au gouvernement de la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui fait un état des faits racistes et des propos racistes et antisémites dans notre pays et au sein des partis politiques. Et la grande majorité de ces faits au sein des partis politiques est d'abord à l'extrême droite, bien plus fortement, est aussi à l'extrême gauche, un peu chez Europe Écologie Les Verts. Et donc, il y a au Rassemblement National, de toute façon, et on le voit avec ces 50 candidats investis qui sont mis en cause pour des propos ou passés ou actuels qui posent problème par rapport aux valeurs de la République. Et puis, moi, je suis étonnée que la gauche, en permanence, renvoie la responsabilité du Rassemblement National vers le groupe macroniste ou vers la responsabilité des macronistes.
Du président Macron.
Depuis 7 ans, on est traité de dictateur, de racistes, de fricoter avec le Rassemblement national. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait aucun acte politique avec eux, jamais signé un amendement, ni voté une proposition de loi de leur part. Et je crois que la gauche a aussi contribué en bordélisant l'Assemblée, en donnant une image chaotique de nos institutions comme l'Assemblée nationale, ou dans les manifestations dans la rue, ou sans condamner les émeutes, eh bien, a fortement favorisé la montée du Rassemblement national.
Je voudrais qu'on parle, si vous le voulez bien, de la situation de la droite. Roselyne Bachelot, le canal historique des Républicains a refusé d'appeler à voter contre le RN. Dans les circonscriptions, ils ne sont pas qualifiés pour le second tour. Ce n'est pas vraiment une surprise compte tenu de la position, par exemple, de François-Xavier Bellamy, mais vous, comment réagissez-vous à ça? Est-ce que vous comprenez
Écoutez, moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur d'une famille politique dont je ne fais plus partie depuis 12 ans. Alors, vous me demandez...
Quoi, vous ignorez tout ce qu'ils font et toute leur prise de parole? J'arrive pas à le croire. À mon avis, non.
Non, moi, je, de toute façon, ce qui s'est passé...
Cette famille n'est plus la vôtre.
Me paraît tellement incroyable, inimaginable. Moi qui étais aux côtés de Jacques Chirac, qui était la porte-parole de Jacques Chirac en 2002, pardon, moi qui étais avec lui dans ce discours de Rennes où il dénonce l'extrême droite. Je me souviens, j'avais emmené un élu socialiste de la ville d'Angers, un adjoint au maire. Il me dit, écoute, je vais voter pour Chirac, mais vraiment, tu sais, je veux le voir, ton candidat. Et je l'emmène à ce meeting de Rennes, il écoute ce discours et il me dit cette phrase magnifique dans la voiture qui nous ramène à Angers. Avant, il était mon candidat et maintenant, il est mon président. Et je crois que là, il se passe quelque chose de fondamental. Et là, ce qu'ils font, moi, je ne comprends plus rien.
Tuguel-Denis, la stratégie d'Éric Ciotti est-elle validée par les résultats de ce premier tour?
Bah oui. Effectivement, je crois qu'il fait plus de voix avec ses candidats, à lui tout seul, que tout l'appareil LR réuni. Il y a eu des sondages aussi qui ont montré que les sympathisants LR validaient son postulat ou sa stratégie. Par ailleurs, la différence, Roselyne, entre l'époque que vous décrivez aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, il y a eu des millions de naturalisations, que l'immigration est devenue un tel problème que même la majorité présidentielle actuelle a voulu faire une loi pour la restreindre, qu'on a eu quelques petits problèmes de terrorisme liés à l'islamisme, et que donc les phrases de Jacques Chirac, si humanistes soient-elles, aujourd'hui ne peuvent plus suffire pour apaiser le débat public français. Moi, je pense que si le racisme ou la libération de la parole raciste monte dans ce pays, c'est aussi parce qu'il y a une immigration incontrôlée.
Ah, c'est à cause des immigrés qu'il y a du racisme.
Oui, à cause des politiques migratoires.
Vous vous rendez compte de ce que vous dites,
Yann Brossard?
Je comprends que votre journal ait été condamné à deux reprises pour incitation à la haine raciale.
Il y a quelques semaines, quelques jours même, Jean-Luc Mélenchon a donné une interview au Figaro.
Vous vous rendez compte de ce que vous dites?
Je peux finir ma phrase?
Oui, c'est honteux, honnêtement, c'est honteux.
Non, mais Yann Brossard,
si vous êtes mal à l'aise.
Je suis révolté par ce que vous dites.
Oui, mais moi, je vous dis qu'une société a du mal à encaisser autant de flux migratoires. Qu'il faut résoudre les problèmes d'intégration et d'assimilation dans ce pays. Si on avait une politique migratoire plus raisonnable, vous auriez moins de racisme dans ce pays. Voilà ce que je dis et ce que je maintiens.
Il n'y a jamais eu autant de mariage aujourd'hui.
Jean-Luc Mélenchon, dans le Figaro, il y a quelques jours, rappelait que dans les années 50, un Français sur 10 avait un grand-parent étranger, ou qu'aujourd'hui c'est 1 sur 4.
Et alors, ça vous empêche de dormir?
Pour une société, c'est difficile à encaisser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez un rassemblement. Mais non, mais écoutez, vous avez 34% des gens qui votent Rassemblement National. Vous doutez que ça a un petit lien avec l'immigration, non?
Non, mais vous avez dit tout à l'heure que s'il y a du racisme, c'est parce qu'il y a trop d'étrangers.
C'est parce qu'il y a une immigration contrôlée en France.
Mais je trouve que ce propos est hallucinant. C'est comme si on disait il y a de l'homophobie parce qu'il y a trop d'homosexuels. Vous vous rendez compte de ce que c'est?
Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on renvoie la faute du racisme aux immigrés eux-mêmes.
On renvoie la faute du racisme aux scandaleux.
Yann Brossard, alors peut-être prenons les choses autrement. Que dites-vous aux Français qui s'inquiètent d'une société qui évolue, qui est en train de se mélange depuis des années et qui n'y trouve plus leur repère, et une forme d'inquiétude qui très certainement parfois conduit au vote pour le Rassemblement National?
Bien sûr que cette inquiétude existe. Je leur dis que le Rassemblement National, de par ses propositions, ne réglera aucun des problèmes auxquels la France est confrontée aujourd'hui. D'ailleurs, il n'y a aucun acquis social dans notre pays qui doivent quoi que ce soit au Rassemblement National. Qu'est-ce que le Rassemblement National a fait depuis qu'il existe? Et ça fait quand même un paquet d'années qu'il existe. Qui a permis d'améliorer concrètement la vie quotidienne des Français? Est-ce qu'il y a une augmentation de salaire due au Rassemblement National?
J'ai envie de vous dire, c'est notamment au Parti communiste français de répondre à cette angoisse.
Regardez ce qu'ils font dans leur ville. Regardez par exemple, à Villers-Cotterêts, ils ont supprimé la cantine gratuite pour les enfants les plus modestes. Enfin, est-ce que c'est ça, se battre pour la justice sociale?
Qu'est-ce que vous dites?
Est-ce que c'est ça qui contribue à améliorer le sort des Français? Et par ailleurs, je leur dis que la cause de nos difficultés, ce ne sont pas les immigrés. La cause de nos difficultés, c'est parce qu'on vit dans un système économique qui favorise aujourd'hui outrancièrement les plus favorisés. C'est ça qui doit changer si on veut améliorer le sort des Français.
Alors, on peut parler de la gauche aussi.
Ah oui, volontiers, ça vous intéresse? Qu'est-ce que vous avez envie de nous... Vous n'aviez pas envie de nous parler de la droite? Parlez-nous de la gauche.
C'est intéressant parce que quand même, à travers tout ce débat, apparaît quand même, à terme, les grandes difficultés que vont rencontrer le cartel des gauches. Et si nous n'en avions...
J'adore le fait que vous utilisiez ce terme qui n'a plus... Ça n'a rien à voir. Je pose une petite provocation à la Roselyne Bachelot. J'aime bien ça. Alors,
je trouve qu'il y a une escroquerie à appeler ça Nouveau Front Populaire.
Là, vous nous avez donné votre réponse. Et on peut l'entendre.
Donc, j'emploie le système de cartel, parce que c'est un cartel électoral. C'est justement là où je veux aller. C'est que on sent les facteurs de division arriver, et c'est pas l'élimination de monsieur Roussel qui va améliorer les choses. Et là, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, qui s'était effacé parce qu'il se disait je suis le grand croque-mitaine, tape. Le premier tour est arrivé, on le voit réarriver avec Madame Rimam Hassan qu'il avait soigneusement mis dans le placard et qui réapparaît avec le keffieh palestinien.
Qu'est-ce que vous en concluez ?
Eh bien, j'en conclus qu'il a bien l'intention d'être candidat à la présidence de la République, qu'il a laissé cette affaire-là se dérouler sans lui et que maintenant il dit « je suis là ». avec mes électeurs, avec la stratégie que j'ai dessinée, et vous ne m'aurez pas comme ça.
Bon. Une stratégie légèrement communautariste par ailleurs. Parce que il s'est très bien quand on arrive avec Rima Hassan, qui a passé sa campagne des européennes à parler de génocide à Gaza et à taper sur Israël du soir au matin et vêtu d'un keffieh. C'est une provocation et c'est un clin d'œil assez lourdingue à l'électorat
mais
communautaire.
Mais ça a rendu fou tous les autres membres de ce cartel dont parle Bachelot. Je peux vous dire, ça s'est passé à 20h15. À 20h15, Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que tout de suite après Marine Le Pen, il est venu devant le pupitre pour prendre le leadership.
Je regardais BFM TV, je peux vous dire que ça ne m'a pas échappé. Oui.
C'est essentiel, parce que là, on est dans des prises de position dans les deux sens de ce mot. Et donc, 20h15, pupitre, rapport de force, le leadership, c'est moi. Et en effet, Rima Hassan derrière lui. Et ça les a tous rendus fous, parce que vous savez ce qu'ils disent. Les autres, ceux qui voudraient que Mélenchon se taise et qui voudraient avoir une chance, au fond, de pouvoir eh bien, avoir des voix en plus grand nombre, précisément. Ils disent qu'il n'a pas envie que ce cartel gagne et qu'il fait ça pour être l'épouvantail et pour faire peur. Et donc, c'est très intéressant.
Ça sera pas sa victoire.
Il y a quelque chose de passionnant dans ce qui se joue chez les nouveaux, dans ce nouveau Front Populaire, Roselyne.
Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous expliquer
parce qu'on
a assisté à un sketch.
Ils le soupçonnent tous de vouloir les planter électoralement et de ne faire ça que pour ça et d'être au fond cette espèce, c'est-à-dire que c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui serait dominé par ses émotions et qui ne se contrôlerait plus, non, c'est un Jean-Luc Mélenchon qui sait ce qu'il fait, qui sait qu'il est un épouvantail et qui vient jouer ce rôle d'épouvantail dans ce moment historique.
Anne Brossat, l'épouvantail Mélenchon.
Je pense que
il vous inquiète, il vous pose problème.
Je pense que
c'est un boulet.
Oui, mais tout ça au regard.
Ah, vous pouvez dire oui.
Tout ça au regard. Je sais, je dis ce que je veux. Tout ça au regard de l'enjeu.
J'aimerais que vous disiez.
Tout ça
oui.
Au regard. J'ai bien compris. Tout ça au regard de l'enjeu est complètement dérisoire. Évidemment que. Pardonnez-moi.
Dès qu'on vous pose une question qui remet en cause l'alliance à laquelle vous participez, vous nous renvoyez à l'extrême droite. Je suis désolé, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
Bien sûr, parce que aujourd'hui, le seul enjeu, je le redis, c'est de faire en sorte que l'extrême droite n'ait pas la majorité absolue. Après, évidemment, qu'au lendemain des élections législatives, à gauche, il faudra se poser un certain nombre de questions.
Aujourd'hui,
nous avons un vote.
Avec Jean-Luc Mélenchon, les keffiehs qu'on met exprès en avant.
Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que la gauche n'a pas de possibilité d'avoir la majorité, notamment parce que son vote est ultra concentré sur les grandes métropoles. Et ça n'est pas vrai que la gauche peut gagner en ne se concentrant que sur les grandes métropoles. Et que si on ne parle pas à la France périphérique, on ne gagnera jamais. Ce débat, il faudra qu'on l'ait, mais j'aimerais mieux qu'on l'ait dans une France qui n'est pas dirigée par l'extrême droite. Donc le sujet du jour, c'est le barrage à l'extrême droite.
En tout cas, quand vous avez une idée en tête, elle revient régulièrement. Et je le comprends très bien.
Pourquoi il vous veut du mal, Jean-Luc Mélenchon? Veut-il du mal à ce cartel électoral?
Réponse courte, l'émission est terminée.
Tout psychologisé.
L'enjeu, c'est pas du tout.
Pardonnez-moi. L'extrême droite ne gagne pas ces élections.
Parce qu'il n'y a pas de psychologie dans la vie politique, de psychologie sociale.
C'est la seule chose qui a ce jour.
C'est purement électoral.
Non, c'est pas.
Pourquoi vous veut-il du mal politiquement?
Parce que je vous le dis, le seul enjeu pour nous, c'est d'éviter que l'extrême droite gagne ses élections législatives. Parce que ça n'est pas un jeu.
C'est pas son enjeu à lui, semble-t-il.
Parce que ça n'est pas un jeu. Et ben en tout cas, moi je considère que c'est l'enjeu majeur et c'est la seule chose qui m'intéresse. Parce que je sais que des millions de gens seront demain victimes de la politique de Monsieur Bardella s'il était élu.